Bienvenue dans le podcast d'Anastasis. Cette série est consacrée au Festival des Poussières, qui a eu lieu cet été, du 25 au 27 août, dans le Eco-Hameau de Goshen. Et nous rediffusons les conférences et tables rondes du festival. Et maintenant, nous écoutons Philippe de Mester, prêtre jésuite vivant à Calais, au milieu des exilés, nous parler de ce que la politique fait au corps des exilés et de ce que l'Évangile nous appelle à vivre comme corps politique.
Bonjour à vous tous. Donc Marigny, vous la connaissez, je suis Philippe Mester. Marigny était venue me rencontrer à Calais. Et puis on a parlé, voilà, sur le mode d'une conversation ininterrompue, souvent autour d'un bon verre. Et puis, elle n'a pas arrêté de prendre sur son ordinateur ce qui venait dans le fil de la conversation. Elle m'a renvoyé tout ça. Parallèlement, moi, j'avais bâti un exposé. Hier soir, on s'est retrouvés. Et puis, donc, j'ai fait le pari de lâcher l'exposé, bon, qui avait une certaine cohérence, pour nous dire, tiens, je reprends le mode de la conversation, et en me laissant inspirer par la conférence introductive de notre rencontre, que j'ai trouvée épatante. Hein. Voilà. Alors, il y a une expression que j'ai retenue dans le bouquin. J'ai fait un passage à Nancy, 2 ans et demi, où j'étais amené à travailler avec des malades psychiques, et puis une association qui s'appelle Espoir 54. Et ils avaient donc dans ce livre, pour titre, Funambule de nos vies. Bon, je pense que c'est toujours important de pouvoir relâcher, ça participe de notre capacité à renaître, bon, toutes les sécurités qu'on voudrait se donner, aussi pour sauver les apparences ou autre chose, etc. De toute façon, dans les milieux, je pense que nous fréquentons les uns et les autres, on en est souvent réduit à un bricolage, bon, et puis c'est pas après pas. Je suis sensible toujours lorsque je suis amené à participer à une célébration funéraire, voilà, du symbole de la bougie. Ça éclaire un pas, bon, pas plus loin, mais un pas on appelle un autre. Bon. À un moment, oui, ben, on a un café pour... voilà. Bon, je vous le dis tout de suite, ici sur la table, là, vous avez un tas de petits textes là, qui sont les mêmes. Vous pourrez vous servir parce que c'est quelque chose que j'ai tiré d'une lecture d'un livre de Alexis Nuss. Le migrant n'est pas qu'une victime. Je trouve que c'est très inspirant parce qu'il met la figure du migrant dans la lignée de la figure du citoyen et la figure de l'ouvrier pour dire comment aujourd'hui cette figure du migrant concentre un peu un tas de problématiques qui concernent le devenir de nos sociétés. Et qui concerne aussi bien les précaires, en manifestant cet appétit qui est celui d'une vie qui est couleur de vie, ils viennent nous réveiller. Et autour d'eux, il y a les questions des frontières, les questions du changement climatique, de la démocratie, etc., de ce qu'est la citoyenneté. Bon, voilà. Donc, c'est court et c'est bien fait. Bon, je te laisse la parole, puisqu'on est amené normalement à dialoguer. Bon, si vous trouvez que je parle trop, vous m'indiquez. Hein, bon. Et alors, conversation, le mot est venu là. Je trouve que, oui, la prière, elle est conversation, et puis la conversation, elle engage Dieu. On voit comment, avec Abraham, Dieu change, est prêt à rentrer dans notre questionnement. La syrophénicienne. Elle n'hésite pas non plus à insister pour que Jésus change de position. Et nous, dans toutes les questions qui nous traversent, etc., faut pas hésiter à nous adresser à Dieu pour, autour d'un bon verre éventuellement, qui peut être celui de l'Eucharistie, de la coupe de l'Eucharistie, à faire des représentations, hein, comme on dit. Bon, allez, je te laisse la parole.
Donc, bonjour à tous. Comme vous voyez, j'ai un rôle de surmoi. Très sympathique. Je serai le surmoi de Philippe.
Oui, elle craignait d'être une potiche.
Bref, peut-être dire quelques mots pour ceux qui ne te connaissent pas et ensuite dire un petit peu vous donner quelques images qui vont peut-être structurer un petit peu l'échange qu'on va essayer d'avoir. Donc Philippe est jésuite. Tu as eu plusieurs vies, on va en parler. Depuis 2016, tu vis à Calais. Et en 2020-2021, tu as fait une grève de la faim en réaction à une situation inextricable politiquement, qui est celle de Calais. Donc Calais, très, très simplement, hein, c'est 367 morts entre 1999 et aujourd'hui, enfin disons 2023. Enfin non, c'était avant les derniers morts, les morts des dernières semaines. Et bien sûr, c'est un nombre bas, puisque une des questions qu'on va essayer de travailler, c'est que ces morts, bon, il y a ceux qu'on arrive à identifier, c'est-à-dire un corps égale un nom, égale quelques bribes d'une histoire, et puis il y a tous ceux dont on sait qu'ils ont disparu, mais on n'a pas retrouvé leur corps, et puis il y a ceux dont on retrouve le corps, et puis on ne retrouve pas le nom, on ne retrouve pas l'histoire. Donc une des questions, enfin voilà, on a beaucoup discuté pendant plusieurs jours, et une des questions c'était que faire avec ces morts, c'est-à-dire un peu brutalement, mais ça nous a amené au texte de Lazare, qui nous a mis dans le petit livret, où Jésus demande où avez-vous mis le mort. On s'est dit, bah, une des questions à Calais, c'est où sont les morts et comment l'histoire de Lazare, c'est l'histoire d'une résurrection. Et bon, voilà, c'est tout ce qui court dans les évangiles, la mort, la résurrection, etc. Et comment renaître à Calais? Est-ce que c'est obscène de dire ça? Est-ce qu'on peut renaître après ça? Est-ce que ça a un sens? Et dans ce cas-là, selon quelle modalité? Alors, comme vous avez pu le sentir un petit peu, Philippe parle de la Bible, donc il parle beaucoup de façon imagée, il cite beaucoup de textes, voilà, tu as dit, c'est ta langue maternelle. Et donc je vous propose de commencer par trois images, moi, qui m'ont marqué dans les discussions qu'on a pu avoir, et puis ensuite de lancer notre échange autour de quelques textes. Alors juste, de modalité pratique, on a tâché de structurer autour de quelques textes qui ne vont pas forcément correspondre à ceux dont on va parler, etc. Mais globalement, les textes dont on va parler, normalement, sont à peu près ceux qui seront écrits dans ce livret. Voilà, donc n'hésitez pas à l'ouvrir, à le feuilleter, etc. Alors peut-être une chose que j'ai trouvé intéressante d'abord, c'était le motif de la plage. Tu m'as dit que beaucoup de jésuites de ta génération étaient très habités par la montagne, l'alpinisme, le Sinaï, l'escarpé, la face nord, etc. Et que toi, la plage te semblait un lieu spirituel, quelque part peut-être plus inspirant, puisque la plage, c'est ce lieu où on déambule librement, où il n'y a pas de chemin prédessiné, où il n'y a pas de chemin dans lequel qu'il faut tracer, etc. Et tu me disais, Jésus, par exemple, au début de l'évangile de Jean, il va et vient sur la plage, on dit, il allait et venait. Et puis Jean-Baptiste dit « Voici l'agneau de Dieu », etc. Puis ensuite on retrouve Jésus qui déambule dans le temple, etc. Et ça nous mène tout droit à la plage de Calais, qui est ce lieu un peu indéfini, où il n'y a pas vraiment de direction si ce n'est la mer, enfin, qui structure l'espace, et la mer qui est ce pur lieu de passage. Et tu as dit qu'une des singularités à Calais par rapport à d'autres lieux où tu avais habité, avec des personnes qui vivent dans la rue, etc., c'est que ceux qui sont là, les exilés qui sont là, leur but c'est de passer, c'est de partir. C'est un lieu de pur passage. Et donc voilà, ça c'est peut-être un premier point qu'on peut avoir en tête, c'est qu'est-ce qui se joue politiquement et spirituellement sur cette plage de Calais. Ensuite, une seconde image, tu m'as dit que si tu avais été architecte, tu aurais aimé construire une église où on rentrerait voilà, par la porte. Et au lieu après l'Eucharistie, au lieu de sortir, de refluer par la porte par laquelle on est entré, on sortirait par une porte derrière l'autel, une porte qui n'existe pas. Et pourquoi est-ce qu'on ne refluerait pas, mais qu'on irait vers un autre endroit? Parce que, tout simplement, l'Eucharistie nous a transformés, on ne peut plus retourner en arrière. On va vers un endroit qui parfois peut être un précipice, on ne sait pas trop où on va, mais pour faire droit à cette transformation radicale. Donc on peut imaginer cette église de Calais dans laquelle on entrerait par la plage et on sortirait directement sur la mer. Qu'est-ce qui se passe? Et puis la troisième image, c'est celle des bandelettes, puisqu'on va beaucoup parler de Lazare. Et les bandelettes, c'est deux choses. D'abord, Lazare, à qui on redonne vie, à qui Jésus redonne vie, mais qui sort avec ses bandelettes. On a tous en tête cette image très étrange de Lazare vivant, mais enserré dans des bandelettes, on ne sait pas trop comment il est debout et tout ça. Bon. Et puis après, on demande de le délier, et on va essayer de réfléchir, c'est quoi ces
c'est quoi ces bandelettes qui sont comme le deuxième moment de la résurrection? Et puis les bandelettes, c'est aussi, dans l'évangile de Jean, ce qui reste, qui est à côté du suaire et roulé à part. Pourquoi les bandelettes sont là? C'est comme les stigmates qui restent. Il y a cette idée que dans la résurrection, la mort n'est pas surmontée, n'est pas effacée, elle est toujours là, mais qu'est-ce qui est toujours là? Et peut-être, pour commencer notre conversation, à partir de ces trois images qu'on vous propose, une phrase que je répétais en chantant beaucoup quand on discutait, c'était celle que Nicodème pose à Jésus dans l'évangile de Jean, c'est « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ?» Donc peut-être la question qu'on va essayer de se poser, c'est voilà, comment renaître à Calais? Est-ce que ça a un sens, une sorte de cette vieillesse politique qui pourrait être celle de Calais? Alors peut-être on peut commencer, tu m'as dit que pour toi, Calais, ça avait été une naissance politique. Est-ce que tu pourrais nous en parler?
Donc un lieu de renaissance. Arrivant à Calais, j'y suis arrivé sans connaître qui que ce soit, j'ai pris un meublé, je suis allé dans différentes associations, en y étant, bon, voilà, je me suis senti un corps parmi d'autres corps, sans identité particulière, sinon d'être un bénévole parmi les bénévoles. Et c'est un lieu où, après être allé par exemple dans les asiles de nuit avec les sans-abri, j'ai redécouvert toujours cette nécessité de renaître avec ou sur les lieux où il s'agit de, dans lesquels il s'agit de s'enraciner. Alors une image que j'aime bien, c'est ce sont les arbres qui marchent. Hein, voilà. Comment c'est important dans les lieux où il s'agit de discerner un peu comment y être présent. Il s'agit d'abord de repasser par cet être physique, cet être-là physique, qui est celui de l'enfance. Donc les bandelettes, vous avez dû observer ça, dans les représentations des nativités, souvent le nouveau-né a un visage de vieux, comme le mien, et il est entouré, effectivement, comme le Lazare qui sort de son tombeau. Hein, donc il y a quelque chose qui ne se laisse pas séparer si le crâne meurt. Bon, voilà. Donc c'est un lieu de renaissance, c'est un lieu où on se retrouve dans la possibilité de parler, parce que toutes les langues autour sont des langues étrangères, et moi-même, ayant appris l'anglais de façon classique, dans ma génération, c'était surtout un anglais où il s'agissait de lire et de pouvoir écrire, mais sans possibilité ou sans nécessité de le parler. Bon, voilà, j'étais aphasique. Et c'est important de retrouver cette proximité des corps. Et cette perte de langage, je l'ai retrouvée chez les bénévoles. Alors notamment, je pense à un visage précis, une fille qui avait fait Sciences Po, Paris, bon voilà. Et alors, je lui disais, mais écoute, avec tout ce que tu as appris à Sciences Po, tu dois avoir des éléments pour analyser ce qui se passe ici. Et alors, elle m'a dit, je ne peux rien dire. Alors effectivement, il y a cette perte de parole, ce qui laisse sans voix à Calais. Et pour moi, ça ressort de cette nécessité de renaître à un langage qui nous permette d'intégrer tout ce qui est, tout ce qui nous laisse sans voix précisément. Lorsqu'on parle de burn-out, je veux dire, pour moi, c'est moins le signe d'une faillite, d'une quelque chose qui se casse, c'est plutôt une promesse, c'est-à-dire qu'effectivement, il s'agit bien de retrouver une langue où la joie puisse ne pas nous quitter, où il y a une langue qui nous transporte, parce que ces horizons intègrent tout ce qui se donne à voir, et son langage nous rend toujours non pas marqué par le signe de l'impuissance, mais au contraire acteur sur le lieu où nous sommes. Pour moi, une phrase qui est géniale dans l'évangile de Jean, s'il s'agissait de retenir qu'une phrase dans toute la Bible, c'est celle qui précède le lavement des pieds, où Jésus, sachant qu'il venait du Père et qu'il retournait au Père, sachant que le père avait tout remis entre ses mains. Alors, j'ai fait son manteau, etc., etc. Mais est-ce qu'on peut croire que, je veux dire, avec un morceau de pain et avec une boulée de vin, voilà, on a tout pouvoir. Et que ce rien s'inscrit de façon décisive dans l'avenir du monde, a une portée décisive pour l'avenir du monde. Il y a toujours cette crainte de ce qui paraît disproportionné par rapport aux défis qui sont ceux aujourd'hui du désastre écologique ou de la misère humaine, etc. Est-ce que l'on peut croire que c'est bien l'avenir qui concerne toute cette immensité-là qui est entre nos mains à travers des choses toutes petites? Hier, venait la question comment la conversion personnelle peut-elle rejoindre le changement des structures. Bon, l'Eucharistie, ça reste le lieu vraiment phénoménal, la matrice un peu de cette conjonction entre le plus petit et le plus grand. Bon, c'est...
Peut-être, je propose peut-être qu'on revienne à la situation de Calais que peut-être beaucoup de gens ici ne connaissent pas, à cet écheveau de. Enfin, on pourrait parler d'une cage de fer, c'est-à-dire où il n'y a quasiment plus d'action possible. On a beaucoup parlé de ça, peut-être tu peux en reparler. Et en quoi l'Évangile nous donne des outils, enfin, c'est pas dit très élégamment, mais nous donne des mots, des paroles, des idées qui nous permettent justement de tracer des brèches dans cette cage de fer. Donc peut-être que tu peux nous parler de la situation politique très concrète, telle que tu l'as vécue à Calais, très agonistique. Et toi, comme chrétien là-bas, qu'est-ce qui était possible politiquement et en quoi l'Évangile t'a permis d'agir en fait ? T'a permis de ne pas être purement, soit de ne pas purement subir, de ne pas être purement dans la colère, même si la colère, bien sûr, elle est constitutive, enfin, comment ne pas être en colère, mais de retrouver une marque d'action.
Oui, depuis que je suis à Calais, j'entends dire c'est toujours la même chose, donc de la part de bénévoles ou de vieux Calaisiens qui demeurent investis, parce que c'est depuis les années, fin du XXe siècle déjà, que Calais est affronté à la venue de personnes qui souhaitent passer de l'autre côté de la Manche. Donc les premiers c'était les Kosovars, hein, donc c'est lié à au démembrement de la Yougoslavie. Et donc toujours la même chose, et c'est même de mal en pire. Hein, bon. Alors il y a un fatalisme, il y a une sorte d'impuissance qui conduit soit à se réfugier dans une activité débridée, qui souvent se paye par des évasions à travers l'alcool ou la fumette ou autre chose, parce qu'il y a quelque chose d'excessif, ou alors il y a le refuge simplement dans l'organisationnel, dans la gestion des affaires courantes, où on ne cesse de courir après les dégâts que peut causer la politique menée localement vis-à-vis des migrants. Donc un des signes qui relève de la logique shadokienne, ça vous dit quelque chose de shadok, non ? Donc par exemple, au moins toutes les 48 heures, les policiers interviennent dans chaque campement et donc oblige les personnes exilées à déplacer leur tente sur la route qui est à côté. Et une fois que toutes les tentes ont été déplacées, les exilés remettent leur tente au même endroit. Donc par exemple, il y a des communautés qui sont bien organisées, par les Érythréens par exemple, eux précèdent la venue des policiers, donc ils viennent réveiller chacun dans leur tente au petit matin. Donc quand les policiers arrivent, tout est déjà les tentes alignées sur la route, les policiers regardent et puis ils s'en vont. Mais pourquoi ? Parce que derrière, il y a au niveau juridique, il ne faut pas qu'il y ait un droit à faire valoir au niveau situation, etc. Mais rester pris dans des logiques administratives comme ça, c'est débile. Alors il y a bien eu des tentatives pour déjouer ça, par exemple, le fait de mettre une boîte aux lettres avec le nom de quelques personnes exilées, donc comme dans un squat, de pouvoir prétendre à une station prolongée sur le lieu pour ça puisse être défendu en justice. Une des raisons qui ont conduit aussi à la grève de la faim, c'était une demande assez simple, qu'on puisse aligner les campements des personnes exilées sur le fait que du 1er novembre, je pense, jusqu'au 31 mars, il y a il s'agit de ne pas pouvoir expulser qui que ce soit de son logement. Donc ça, c'est pour dire quelque chose de la situation à Calais, où tout semble verrouillé. Et pour moi, ça m'apparaît, je veux dire, vital de pouvoir toujours proposer des échappées et des marges de manœuvre différentes qui, pour moi, se sont traduites par un souci de proposer différentes solutions d'hébergement aux exilés qui sont présents. Alors c'est sûr qu'il y en a, par exemple, qui souhaitent un hébergement provisoire, le temps de se refaire une santé, donc 8 jours, ça peut suffire, le temps de se faire une essie, de se reposer à fond, de bien se nourrir, et pour repartir sur les parkings, par exemple, pour ceux qui souhaitent passer, traverser avec les camions, ou de repartir sur le rivage en attendant un embarquement. Il y en a à qui il s'agit d'offrir une période plus longue, le temps de pouvoir réexaminer leur situation administrative, de refaire le point sur les choix qu'ils ont faits, et puis de les aider dans un discernement qui puisse éventuellement les réorienter vers une demande d'asile en France, contrairement à ce qu'ils pouvaient envisager précédemment. Et puis aussi, il y a une offre d'hébergement à ce moment-là de plus long cours, mais qui doit pouvoir aussi se vivre en dehors de Calais, même si à Calais, la dimension communautaire est forte, à tel point qu'elle puisse retenir les personnes exilées d'aller ailleurs vivre un temps qui est celui où, par exemple, il y a des délais pour faire tomber le Dublin, oui, c'est ça. Ou aussi, par exemple, chez moi, il y a un gars qui devait attendre 10 ans, il a encore 2 ans à attendre avant de pouvoir déposer une demande d'asile. Et alors, donc, chaque fois, ce sont des cas de figures différentes, mais c'est important de pouvoir offrir des solutions pour chaque cas de figure, parce que sinon, on se retrouve dans la position actuelle où, avec les tentatives d'embarquement qui se multiplient dès que la météo est favorable, il s'agit de recueillir, au moins momentanément, toutes les personnes qui se retrouvent mouillées le long des routes, etc., qui doivent prendre le temps de se sécher, de récupérer des vêtements secs pour repartir dans l'aventure. Alors souvent, ces gens-là parasitent d'autres hébergements. Et c'est important de pouvoir, honorer cette dimension-là.
Peut-être pour rebondir sur cette situation que tu viens de nous décrire, tu parles beaucoup aussi, tu l'as pas forcément évoqué ici, mais tu en parlais beaucoup, les différents acteurs entre la mairie, la préfecture, les différentes associations, l'église aussi, le diocèse, etc., qui sont autant d'acteurs qui... qui font partie et qui à différents niveaux de cette situation inextricable. Et on avait évoqué 3 notions, enfin on trouve dans les évangiles 3 notions qui permettent peut-être de trouver des échappées. Donc on avait parlé d'abord de la déambulation, peut-être tu pourrais nous en dire un mot, ensuite du kairos, du diable, et puis enfin de la fraction du pain et du partage du corps, de la grève de la faim dans le cas qui a été le tien. Peut-être qu'on peut commencer par la déambulation, comment retrouver une marge de liberté, un peu de jeu dans cette situation. Comment faire? Et peut-être vous parlez du texte de l'Évangile qui parle justement de cette façon de retrouver l'espace.
Oui, alors la déambulation, ça renvoie au fait, oui, dans le texte de Lazare, par exemple, où Jésus attend 2 jours avant de se rendre à la convocation, pour ne pas dire à l'ultimatum qui lui est posé par les sœurs de Lazare, qui est malade à ce moment-là. Mais l'importance de ne pas se laisser prendre par des urgences, de ne pas se tromper d'histoire. C'est-à-dire que l'histoire qui nous est proposée, c'est une histoire qui déborde ce qui apparaît infranchissable, ce qui apparaît être la fin de tout. Je veux dire, bon, hier on évoquait, mis sur le plateau de mille vaches, là, la fin d'une forêt de chênes, etc. Les choses sur lesquelles on ne peut pas revenir. Quelqu'un est décédé, il semble que ce soit la fin indépassable. Or, la déambulation, c'est un des modes d'expression de cette liberté qui ne se laisse pas prendre par les assignations ou les convocations auxquelles il semble impossible de répondre. Hein, convocations, poste de police, autre chose. Donc de pouvoir rester disponible pour le kairos, c'est-à-dire le bon moment. J'ai souvenir d'un livre qui a été édité par Athédé Carmon, qui rapporte des expériences d'instituteurs membres d'Athédé, qui rapporte comment dans des milieux scolaires difficiles, où une classe leur échappe complètement, etc., ils restent suffisamment disponibles pour saisir le moment où il y a un fait qui va rechanger complètement la physionomie des relations qui sont pourries entre les élèves ou entre les élèves et eux-mêmes. Bon, ça suppose que on ne se laisse pas prendre par nos propres émotions, par par ce qui semble les évidences qui semblent s'imposer à nous. Alors la déambulation, c'est un mode d'expression de cela, parce que, contrairement à la montagne, il n'y a pas de but. Il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de... Il y a quelque chose qui reste libre, et on n'est pas obligé de faire attention au pas qu'on fait sur le sable. À la montagne, il vaut mieux, surtout si vous êtes dans un pierrier ou autre chose, il vaut mieux savoir où vous mettez les pieds. Sur le sable, franchement, non. Bon, voilà. Alors ça, c'est important, même sur les lieux où il y a les urgences, de garder cette capacité. Je souffre, pour moi, du peu de disponibilité des milieux associatifs à Calais pour garder une disponibilité, pour dire, mais tiens, au-delà de ce que l'on fait et qui nous prend tout le temps, quel autre temps peut se donner à nous comme pour inventer, pour nous déplacer, et surtout ne pas continuer à buter sur le front qui est celui des oppositions qui sont mises devant nous par la mairie et par l'État à travers son pouvoir local de la préfecture. J'ai créé une association avec d'autres qui s'appelle Écart. Justement, comment vivre ces écarts-là qui nous permettent de revoir la situation avec de la distance. Je réponds jamais à tes questions.
Ah si, tout à fait. Merci beaucoup, c'est pas très important. Peut-être pour revenir sur le Kairos, tu as dit ton premier travail d'exégèse, quand tu étais encore en formation, ça avait été sur ce passage très mystérieux, je pense, on est beaucoup à rester parfois dubitatif sur ce moment où Jésus maudit un figuier. Alors, tu peux nous en parler, nous dire pour toi la portée politique de ce passage.
Oui, alors donc c'est dans l'évangile de Marc qu'on a cette version du figuier vers lequel Jésus se dirige alors qu'il est pour son séjour qui va l'introduire à sa passion devant Jérusalem. Il va chercher des fruits sur un figuier, il n'en trouve pas, et Marc prend la peine de dire que ce n'est pas la saison des figues. Et Jésus maudit le figuier. Alors, je trouve ça très intéressant, parce que, c'est un des lieux où, qui nous renvoie au fait que Jésus reste, à travers sa présence, quelqu'un qui vient nous dérouter, quelqu'un qui ne rentre pas dans exactement dans nos histoires et qui nous invite à entrer dans une autre histoire. Alors pour le figuier, c'est-à-dire que là où j'ai été affronté à ces prudences institutionnelles, même de la part de l'Église, autre chose, où on dit c'est pas le moment, il faut avoir la patience, tout ça, etc., etc. Il y a quand même ces moments du kairos, c'est-à-dire on s'en fout, c'est pas le moment, mais il faut y aller. Et alors, donc je retrouvais, oui, c'était.
Je crois que René Char,
que j'aime bien sur le. Alors c'est visible ici. Enfin, il s'agit de. Tu peux lire ça. Agir en primitif et prévoir en stratège.
Agir en primitif et prévoir en stratège.
Le kairos, ça reste quand même ce lieu-là où l'on se lance dans le vide et où on fait confiance à quelqu'un d'autre, à quelqu'un qui, vers qui on s'est tourné, vers qui on a conversé, mais dont on se dit qu'il est et qu'il sera au rendez-vous. Donc, pardon, monsieur, oui, je faut que je parle en micro. C'est important de pouvoir se fonder sur cette, comment dire, sur cette nécessité d'y aller avec tout ce que l'on est, ne serait-ce que avec ce premier outil qui reste à notre disposition, qui ne nécessite pas d'argent, c'est notre corps. Hein, donc René Char, lui, concrètement, a monté un groupe de maquisards et puis est allé au combat. Je suis entouré de prudence, où, que ce soit au Secours catholique, que ce soit de la part de la Compagnie de Jésus, que ce soit de la part du diocèse, où on est pris dans un tas de bandelettes, voilà, qui font que le corps ne peut plus bouger. Donc tout demeure statique, tout demeure convenu, tout demeure oui, bien séant. Bon, voilà.
Merci. Alors peut-être la troisième idée qu'on avait évoquée, c'était sur la question des, d'une part des ennemis, d'autre part du diable. Tu dis, voilà, dans cet univers, il y a des acteurs très définis, chacun se joue son rôle, il y a des oppositions extrêmement tendues, violentes entre la préfecture, les associations, les exilés, toi là-dedans, etc. Et on a essayé de penser dans ce cadre-là, qu'est-ce que ça veut dire ce passage de Matthieu 5 que vous avez dans le petit livret ? Eh bien, moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. Ce que je trouve intéressant dans ce que tu évoques souvent sur la situation à Calais, c'est cette tension entre d'un côté dire, ben voilà, on est appelé par le Kairos, il faut prendre position, certes il y a des structures, etc., mais derrière il y a des personnes qui prennent des décisions qui sont mauvaises, qui sont destructrices, et il faut en prendre acte, lutter contre ces décisions et, hein. Et d'autre part il ne faut pas absolutiser l'exilé, en faire une figure absolument christique, hypostasier, et quelque part le déshumaniser, et de l'autre côté déshumaniser aussi les gens de la préfecture, etc. Donc comment à la fois garder dans l'action politique cette idée que voilà, Dieu fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Je me disais, bah, chez moi, j'accueille tout le monde, des bons et des méchants, et il y a des exilés qui ne sont pas très sympas. Et quelque part, c'est ça qui nous rend frères, puisqu'on est tous marqués par ce péché-là. Voilà, et comment articuler à la fois cette idée qu'on est tous dans une commune humanité. On va parler à la fin, justement, de la grève de la faim, qui s'enracine dans cette idée d'une nature commune, et en même temps garder cette capacité à la lutte, à l'opposition, à la stratégie politique aussi.
Alors, tu me diras si je ne réponds pas à ta question. Voilà. Mais le caristique, quand même, il y a Judas qui participe. Hein. Hein, bon, voilà. Et en plus, il faut considérer que tout le temps où Jésus vit les procès devant Sanhédrin, devant Hérode, devant Pilate, je veux dire, il s'arrange pour ne pas rompre, pour laisser une place à la table de la parole à ce moment-là, je veux dire. C'est plus simplement celle où sont partagés le pain et le vin, mais pour ne rien empêcher, pour ne pas fermer cette table qui est destinée à accueillir tout le monde. Ça n'empêche pas qu'auparavant, dans sa vie publique, Jésus n'a jamais hésité à rentrer dans la confrontation. Et c'est important de pouvoir rétablir, quitte à tordre le bras de ceux qui sont en face de nous, je veux dire, la possibilité d'un vrai dialogue, et donc ça suppose d'en passer par des rapports de force. Alors j'aime bien, dans la Transfiguration, il y a Jésus qui parle avec deux figures qui sont éminemment politiques, c'est Moïse, hein, voilà, qui est... Après s'être fait rétamer pour avoir lui-même tué un Égyptien pour défendre un de ses frères hébreux, je veux dire, a été rappelé à cette mission première, mais il l'a reçue du coup. Nous, dans quelle mesure aussi, dans nos combats, on est capable de recevoir autrement les combats que l'on veut mener pour que ces combats rentrent dans une histoire qui nous déborde simplement et qui soit vraiment une histoire de communion. Voilà. Si c'est la communion de tout ce qui existe, qui est l'avenir qu'on appelle vie éternelle, comment nous-mêmes on peut rester ouverts au chemin de cette communion-là et qui suppose donc qu'on puisse rester en présence de celui qui nous accompagne sur ces chemins-là, celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Alors, donc, à côté de Moïse, il y a Élie. Bon, Élie aussi figure éminemment politique dans la Bible, parce que, je veux dire, toute la trame de l'histoire qui est la sienne consiste dans un face-à-face avec le roi Achab. Bon, vous avez tous le souvenir de ce pèlerinage de Élie qui, découragé, qui fait un burn-out et qui se dirige vers le Sinaï, voilà, pour retrouver quelque chose qui fasse source pour lui. Et alors c'est là où on a l'épisode où dans la rencontre de Dieu, Dieu n'est pas dans le tremblement, Dieu n'est pas dans l'orage, et puis Dieu est dans la brise douce, etc. Alors, il faut bien entendre ce que ça signifie, cette brise douce. On peut dire, oui, non-violence. Bon, très bien. Mais qu'est-ce qu'on met dans cette non-violence? Parce que si on suit le récit, après, Dieu dit que bon, ça va continuer à barder dans le paysage politique qui est celui d'Israël. Alors, pour moi, je fais le lien entre cette brise douce et puis un autre récit que l'on trouve au retour du peuple d'Israël d'exil à Jérusalem. Le peuple, réentendant la loi, se met à pleurer en découvrant comment il s'était totalement écarté de cette loi qui lui a donné son ossature de peuple. Et c'est là où, je ne sais plus si c'est, le nom m'échappe, enfin peu importe, celui qui dirige la célébration, Esdras ou Néhémie, voilà, dit, la joie de Dieu est votre rempart. C'est-à-dire que dans les combats dans lesquels on est engagé, on perd figure, on perd la face, on sort de nos gonds, on est hors de nous. Et parfois, je veux dire, il y a de quoi être désespéré parce que, effectivement, on se retrouve avec nos enfers. Savoir que dans le chemin où on est, il y a la joie de Dieu qui est notre rempart, là où nous, on fait triste figure aux yeux de tous et vis-à-vis de nous-mêmes, c'est fondamental. Et pour moi, c'est à partir de là que je relis cette douceur de Dieu. C'est-à-dire qu'on puisse, au milieu même de tous les combats qui nous sont donnés, entendre cette douceur de Dieu et en faire la source de nos actions, de nos rudesses, de nos contraintes. Pendant une quinzaine d'années, j'étais amené à élever des brebis. Je ne peux pas parler de ça, non. Bon. Et alors, donc, je suis passé par les apprentissages des personnes qui s'y connaissaient. Et alors, c'est vrai que pour tondre une brebis, pour la droguer, comme on dit, au printemps, avant qu'elle l'herbe repousse, voilà, il y a des nécessités de contraintes, il faut y aller avec de la vigueur, il faut y aller avec de la rudesse, mais qui n'est pas une violence. Alors, je trouve qu'on est toujours affronté sur les champs politiques où on est face à des gens qui sont nos frères ou autre chose, à pouvoir vivre ce pouvoir de contrainte, ce pouvoir de, d'affirmation d'une force, mais enraciné dans une douceur. Alors, je ne sais pas comment chacun d'entre vous peut recevoir ça. Pour moi, j'essaie de le vivre. Mais ça réconcilie avec ce fait que, on est dans un univers où il faut aussi prendre sa place. J'ai eu la chance, pour moi, de rencontrer les pauvres à travers des gens qui étaient des déménageurs, tout ça, etc., etc. Donc, avec des pauvres qui ne sont pas des pauvres inoffensifs. Pas des pauvres que je vais rencontrer dans un milieu qui est celui de la prière et de la lecture commune de la Bible. Donc voilà, pas des pauvres devant lesquels, c'est le pape François qui a des belles paroles pour dire, pour déplorer le fait que souvent on rende les pauvres sans vigueur, sans leur rendre leur puissance d'agir. Hein, c'était hier avec. Marcello, on parlait de la dynamisme, de la force de l'esprit. Comment on peut leur rendre cette énergie, ce pouvoir de révolte qui est celui qui anime les personnes exilées pour leur faire dire « Mais la vie dont on nous dit c'est votre vie, ce n'est pas une vie ». Et pour moi, c'est un des grands enjeux aujourd'hui de pouvoir relier les personnes qui à Calais, par exemple, sont dans les grands ensembles qui sont tout le temps soumis au contrôle, parce qu'ils vivent des allocations, des revenus sociaux, etc., pour leur dire, il faut reprendre votre vie en main, et il faut vous déplacer avec les mêmes risques que les personnes exilées aujourd'hui, parce que votre vie, il ne faut pas vous faire à l'idée que c'est une vie. Hein, bon. Je dirais qu'il faut répondre à la
question. Un petit gag.
Peut-être avant de passer à la lecture de Lazare, revenir sur ce moment de la grève de la faim et justement qu'est-ce que ça veut dire à la fois de vigueur, de résistance et de douceur. Il y a une phrase que tu m'avais parlé, qui m'avait marqué. Tu disais, au moment de commencer la grève de la faim, l'évêque était venu te voir et t'avait dit non, mais ça ne va pas. Un chrétien ne doit pas mettre sa vie en danger. Tu m'avais dit, deux choses. D'abord, est-ce que Jésus il est allé mourir chez Marthe, Marie et Lazare Et ensuite, que justement, dans le fait de ne pas manger à ce moment-là, il y avait au contraire une affirmation de vie très forte. Et là, je vous propose de lire peut-être deux textes dont tu m'avais parlé. Le psaume 39, c'est la lettre aux Hébreux. Tu le reprends, peut-être tu peux le lire si tu veux. C'est là.
Mais tu ne voulais. Alors là aussi, quelque chose qui marche. Oui. Tu ne voulais donc ni offrande ni sacrifice. Tu as ouvert mes oreilles. Tu ne demandais ni holocauste ni victime. Alors j'ai dit voici, je viens. Et c'est repris par la lettre aux Hébreux, où il n'est plus dit cette fois-ci, tu m'as ouvert les oreilles, mais tu m'as donné un corps. Donc voilà, moi je me dis qu'avec ma pluquitude, comme plouc, je peux toujours répondre présent, mais c'est vrai aussi ici dans les services, qu'est-ce qu'on peut faire? On a deux mains, on a deux pieds, à défaut d'autre chose, à défaut d'être intelligent, de quoi que ce soit, on peut répondre présent. Et je trouve que l'appel des disciples par Jésus, il y a quelque chose de ça, des gens qui disent, j'y vais. Cette capacité à sortir de toutes nos immobilités, de tout ce qui nous fixe, même à notre croix, prendre sa croix, c'est ça, c'est répondre à cet appel à la mobilité. Viens et suis-moi, t'occupe pas des casseroles que tu traînes, Il y a des casseroles qui tomberont en chemin, il y en a d'autres que tu traîneras jusqu'au bout de ta vie. Mais je t'emmène dans une histoire où arrête de te regarder, arrête de tout ce qui te fait regarder les paroles que tu tiens, tout ça, etc. Tout ce qui relève du narcissisme, tout ce qui nous fait trouver notre source d'abord dans notre seule histoire, dans notre propre histoire, et qui s'arrête aux limites, aux horizons qui sont ceux de nos histoires. Comment ? Je pense que c'est... Oui, lorsque les Écritures nous parlent du fait qu'on appartient à un peuple migrant, c'est là où toujours il s'agit de sortir de nous-mêmes, des horizons qui sont ceux, même les plus grands, on veut dire, et parfois de revenir aux horizons les plus petits, qui sont ceux de lutter. Oui, qu'est-ce qu'on fait de notre corps ? Alors c'est vrai qu'à un moment où il y avait un gros sentiment d'impuissance sur laquelle il y avait des bénévoles, ça a été juste après le cercle de silence qui s'était fait après le décès d'un jeune exilé qui s'appelait Yasser, avec donc un couple, on s'est dit, tiens, bon, voilà, on ne peut rien faire, mais on peut ouvrir ce champ-là qui passe par notre corps, où on dit, on manifeste que notre... voilà, déjà, ça nous coupe l'appétit, ce qui se passe à Calais. Et puis, aussi, il y a quelque chose qui participe d'une même chair, comment manifester, qu'on ne se laisse pas séparer de ces personnes-là. Hein. Que jamais je ne sois séparé de toi. Bon, il s'agit bien de manifester cette communauté qui est très charnelle d'abord. Et pour moi, mon horizon politique à Calais, c'est de faire abstraction de tout ce qui peut être politique, administratif, juridique, sécuritaire, etc. Mais simplement de dire, rien ne justifie ce que l'on fait au corps des personnes exilées à Calais. Hein. Voilà, c'est cette communion-là qui est première. Tu es la chair de ma chair. Et puis nul n'a jamais haï la chair de sa chair, ce sont des paroles aussi qui sont de l'écriture, pardon. Et alors, je proclame le décret du Seigneur. Oui, c'est ça, bah, donc ça renvoie aussi à ce que Marcello disait, l'institution. Hein, je veux dire, il y a quelque chose qui est extraordinaire dans le psaume 2. Hein, pourquoi ce tumulte des gouvernements, des Européens, etc., en haut, hein, de la page 2. Ce vain murmure des peuples, voilà, tous ceux qui disent ils viennent manger le pain des Français. Les rois de la terre se dressent, les grands se litent entre eux, contre le Seigneur et son Messie. Faisons sauter nos chaînes, rejetons ses entraves. Et puis celui qui traîne dans les cieux rigole, le Seigneur lui tourne en dérision, puis il leur parle avec fureur, et sa colère les épouvante. Moi j'ai sacré mon roi sur Sion, sur ma sainte montagne, je proclame le décret du Seigneur, il m'a dit, tu es mon enfant, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Je crois que c'est la première chose qu'on puisse faire entendre à toutes les personnes, tu es mon frère, je veux dire, à toutes les personnes qui sont discriminées, à toutes les personnes qui sont considérées comme inutiles au monde, toutes les personnes qui contiennent en lisière de ce qui est présenté comme le plus performant dans notre humanité, etc. Il y a quelque chose qui nous vient de l'extérieur, qui nous fonde, hein, qui nous institue devant tout le monde. Et alors ça reprend, par exemple, quelque chose qui va sur cette tonalité-là, c'est dans le psaume, là, tu es le Seigneur et mon berger, tu as dressé devant moi une table devant mes... tu m'as dressé une table devant mes adversaires. Hein, voilà. Et je crois que, pour moi, la table, ça reste quelque chose de fondamental. Hein, quand même, mais bon, on parle d'autre chose.
Mais alors là, on va passer
voilà,
la dernière...
Combien de temps encore ?
Une vingtaine de minutes.
Mais là, bon.
On va passer peut-être au dernier moment de cet échange autour de Lazare et de la sidération autour de la mort, la conspiration autour de la mort, hein, la forme de plaisir qu'on peut trouver dans cette attraction de la mort qu'on peut retrouver à Calais et comment s'en extraire. Alors j'ai une question, est-ce que vous souhaitez qu'on relise ensemble tout le chapitre 11 qui est assez long et pour qu'on l'ait en tête collectivement, ou est-ce que c'est pas la peine, on peut aller directement à la...
On peut prendre au fil de la lecture.
Hein. Très bien, alors allons-y.
Bon.
Donc il y a quelqu'un de malade, Lazare de Béthanie, le village de Marie et le Marc de sa sœur. Hein, tout de suite, on dit qu'il s'agit d'un collectif. Hein. Donc il ne s'agira pas de la résurrection de Lazare, il s'agit de la résurrection d'une communauté. Hein. Bon. Or, Marie était celle qui répandit du parfum sur le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Alors, l'onction par Marie des pieds de Jésus, on la retrouvera après le récit. Hein, donc ça fait une inclusion. Alors, ce que je trouve intéressant, c'est cette histoire de pieds. Parce que Jésus, par le geste du lavant des pieds, il lui est inspiré par une femme. Hein, déjà. Il le reprend, autrement, c'est génial. Bon, c'est pas dit comme ça, mais l'idée lui est donnée par quelqu'un d'autre. Bon. Et alors, cette histoire de pieds, il y a Jésus qui va prendre du temps pour venir répondre à la convocation de Marthe et de Marie. Et Marie, c'est celle qui va pleurer sur les pieds de Jésus. Pour moi, ça me renvoie au fait que souvent on est amené à pleurer sur le fait qu'on soit si lié à la terre, qu'on soit si impuissant, à la limite qu'on apparaisse comme bête, comme nos pieds ou autre chose, etc. Mais ce sont ces pieds-là qui sont au contact de la terre, avec une poussière de la terre, qui sont ensuite, après avoir été ceux sur lesquels on a pleuré, qui sont ceux sur lesquels on verse du parfum et qu'on essuie avec les cheveux. Hein, bon, voilà, je veux dire, les cheveux, c'est ce qui représente la parure. Hein, bon, voilà, ce qu'il y a de plus beau hein, dans... Donc les deux sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, celui que tu aimes est malade. Alors là, il y a un peu quelque chose qui est sournois, il faut dire comme ça, parce qu'il y a un chantage affectif. Si tu l'aimes, bon voilà, tu te remues. Hein, bon, grosso modo, on est tous affrontés à ce genre de demande. Si on a des enfants, bon voilà, écoute, je te demande un scooter, franchement, c'est ça, il faut. Accède à la demande. Hein, voilà. Il y a ce chantage qui est celui qu'on retrouve dans l'incarnation de Jésus, si tu es le Fils de Dieu, voilà, le si. Hein, bon, voilà. Et à ne pas se laisser prendre aussi dans toutes les convocations aux engagements, à la militance. Si. Hein, bon, voilà. En apprenant cela, Jésus dit, cette maladie ne conduit pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle, le Fils de Dieu soit glorifié. Alors, comment on peut comprendre ça? Il s'agit toujours de revenir, pardon, à l'honneur de Dieu. Parce que, je veux dire, il y a une intelligence du commencement de notre humanité qui est à la fois une intelligence de la façon dont Dieu nous partage sa vie. Lorsqu'il nous donne sa loi, c'est pas pour nous donner à nous une loi qui ne nous concernerait que nous, mais c'est parce que c'est la loi qui le fait vivre aussi. Et alors, rendre son honneur à Dieu, c'est dire que tout ce qui concerne la vulnérabilité, les lieux où nous ne sommes pas en possession, en maîtrise de notre propre vie, ce ne sont pas des lieux qui sont faits pour que s'y déploie la maîtrise, la domination, ou le jugement ou la condamnation, mais c'est le lieu où se vit l'amour à travers bon, cet échange que l'on représente dans la Trinité, où chacun se dépossède lui-même de ce qu'il est pour le recevoir enrichi par ce que l'autre est. Avec ce moment, effectivement, de se dire, mais qu'est-ce qui peut se passer? Est-ce que l'autre va retenir ce que je suis pour lui-même et pour s'absoudre de cette différence qui représente toujours un lieu d'incertitude, un lieu de non-maîtrise de sa propre vie. Hein. Donc, lorsqu'il parle de gloire de Dieu, c'est à propos de l'aveugle-né aussi. Pourquoi cette maladie, il interroge les disciples à propos de l'aveugle-né, et Jésus dit, c'est pas que ses parents aient péché ou lui-même, mais c'est pour la gloire de Dieu. Et croire que aujourd'hui, sur le lieu même où on est d'abord porté à la désolation vis-à-vis de la nature, de tout ce qui est fait à la nature, et puis aussi aux autres hommes, c'est pour la gloire de Dieu. Voyez, qu'on cesse d'être les porteurs d'une désolation. C'est le chantier. Voilà, c'est le chantier de la vie éternelle. Il passe par tout ce qui s'éveille à cette occasion-là. Donc, c'est chouette, plutôt. Je veux dire, c'est... Hein, bon, qu'on ne se laisse pas arrêter par tout ce à quoi s'arrêtent d'abord Marthe et Marie et la communauté qui se fonde autour de la désolation. Hein, bon. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. On représente bien, encore une fois, le trio qui n'est pas un trio infernal, mais une association qui est menacée par la déliaison. Toutes les différences sont porteuses de mort, en ce sens qu'elles peuvent signifier elles peuvent signifier une rupture de communauté. Hier, j'entendais quelqu'un, on en reparlait là tout à l'heure, de l'attention qu'à table, parfois, on peut porter avec des amis ou dans des familles, de ne pas aborder certains sujets, parce que sinon, ça va défaire la table. Hein, je veux dire, ce sont des sujets brûlants, donc on les évite. Donc, la mort, elle est porteuse, c'est la figure ultime de tout ce qui est force de décomposition du tissu social, du tissu familial, du tissu associatif, etc. Et comment cette peur-là fait que, souvent, on biaise avec la vérité, ou... Oh, pardon, il faut que je l'enlève, ça, sinon je vais tenter de retourner là. Comment on biaise avec la vérité et comment on se crispe sur des choses qui sont sans avenir. Hein. Donc, quand il a appris que celui-ci était malade, il demeura deux jours encore à l'endroit où il se trouvait. Puis après ça, il dit aux disciples, revenons en Judée. Les disciples lui dirent, Rabbi, tout récemment, les Juifs là-bas veulent chercher à te lapider et tu y retournes. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures dans la journée? Celui qui marche pendant le jour ne trébuche pas parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais celui qui marche pendant la nuit trébuche parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il ajouta, Lazare, notre ami, s'est endormi, je vais aller le tirer de ce sommeil. Les disciples lui dirent alors, Seigneur, s'il est endormi, il sera sauvé. Jésus avait parlé de la mort, eux pensaient qu'il parlait du repos du sommeil. Alors il leur dit ouvertement, Lazare est mort et je me réjouis de n'avoir pas été là à cause de vous pour que vous croyiez, mais allons auprès de lui. Bon. C'est à travers ce qui est dit, cette façon qui est celle de Jésus de différer son départ, lui ça renvoie à ce que je disais là précédemment. Jésus ne se laisse pas prendre par une urgence, il sera trop tard. Donc, j'ai même un discours qui dit, aujourd'hui, par rapport à la catastrophe écologique, la catastrophe a déjà eu lieu. Parce que d'une certaine façon, ça nous rend de la liberté. On n'est plus pris par une urgence qui, finalement, nous enferme dans une histoire qui est fermée. Dans la traversée de la mort qui est celle de Jésus à l'occasion de ce récit, il y a bien une restitution de notre histoire dans une autre amplitude. Alors, j'en profite pour faire référence à un texte qu'on trouve qui peut paraître énigmatique dans les évangiles synoptiques, de deux femmes qui sont au moulin, l'une sera prise, l'autre laissée, de deux hommes qui sont au champ, l'un sera pris, l'autre laissé, de deux personnes dans le même lit, l'une sera prise, l'autre laissé. C'est-à-dire que on peut être engagé dans les mêmes actions, etc., mais avec... Alors c'est là où la conversion intervient, parallèlement au changement des structures, et on ne peut pas être branché sur la même histoire. Et on le voit bien, par exemple, dans la charité que vous connaissez tous, là, vous savez... j'aurais beau donner ma vie, etc., si je n'ai pas la charité, etc. Comment, qu'est-ce que ça signifie finalement cette charité? C'est important de pouvoir se le dire comme intégration de cet horizon qui est un horizon émancipateur par rapport à notre propre durée de vie. Si nous étalonnons nos mesures de succès, de réussite ou d'échec par rapport à nos propres vies, nous ne sommes pas dans le vrai. À mon avis, nous ne sommes pas présents à ce royaume qui vient. Il y en a un qui parlait de la communauté qui vient, donc je pense, aussi il y a ça. Hein, bon. Ça va, vous n'êtes pas trop fatigué, non? Bon, on peut continuer? Alors, dis-moi. Pardon. Oui, alors donc après il y a tout le scénario où Marthe et Marie, oui voilà, donc Jésus ne rentre pas dans le village. le village où il y a tous ceux qui sont venus consoler Marthe et Marie, etc. Cette communauté qui se présente comme une défense contre la mort, qui se fonde, qui se réalise uniquement une défense contre ce pouvoir de dissolution. Alors que, ce qui nous fonde, c'est le premier lien qui nous fonde, c'est celui qui nous dit « tu es mon enfant » et c'est cela qui nous permet ensuite de vivre des séparations qui sont porteuses de vie, de ne pas être prisonnier de connivence ou d'entente où on croirait qu'il faut trafiquer la vérité pour leur demeurer fidèle. Je repense à la peur d'afficher des dissensions pour ne pas faire le jeu d'ennemis, ça a été présent, on parle souvent dans les syndicats ou autre chose, ou contre la vérité, on défend Mordicus, un compagnon de travail ou autre chose, face à un patron, parce qu'il ne faut pas faire le jeu, oui, il faut rester dans la dynamique qui est celle de l'opposition des classes, etc. Or, si nous sommes fondés dans ce lien premier avec celui qui nous appelle son enfant, c'est pour pouvoir rester libre aussi dans les alliances que nous pouvons tisser les uns avec les autres. Alors, ce qui me paraît à retenir aussi, c'est la façon dont, on se laisse consoler à bon compte. Marthe dit à Jésus, oui, je sais qu'il y aura la résurrection, etc. Mais Jésus se présente comme la résurrection pour aujourd'hui. Il faut se méfier des horizons qui nous échapperaient. L'horizon pour Jésus, ça a été celui où il a célébré l'Eucharistie. Donc, en Jésus, nous trouvons une capacité de réconcilier et le passé et l'avenir. Il n'y a pas d'avenir qui ne soit inscrit ici, aujourd'hui. Et alors, on peut avoir des visions de l'avenir qui nous transporte ou autre chose. Mais ce qui est important, c'est de voir ce qui est puissance d'avenir dans notre quotidien. Pour Jésus, dans son Eucharistie, il manifeste que c'est à travers le partage du pain et du vin. Or, comment pour nous, ça peut prendre figure dans les actualités où nous sommes, hein ? Alors, donc, Jésus ne rentre pas dans le village, on l'a dit. Et puis, c'était toi qui rappelais cette phrase-là, il demande où on a mis le mort. Et, oui. Finalement, dans notre façon de faire corps avec la mort, il est dit de Marthe, c'est la sœur du mort. Bon, nous, dans quelle mesure aussi notre lien avec la nature qui meurt, ça fait de nous aussi des personnes qui propageons cette mort, qui lui donnons consistance encore, qui la renforçons à travers notre discours, à travers notre action et à travers des solidarités, une façon de faire corps ensemble autour de cette mort de la nature. Pourtant, j'ai l'impression de parler vite. Hein. Bon, oui. Donc, non. Oui, il y a tous les trop tard, etc. Oui. Jésus dit enlever la pierre. Oui, comment on considère que l'histoire est finie, qu'il y a des choses qui sont enterrées et qui échappent, qui sont sorties de l'avenir. Alors, pour le dire rapidement, la figure de Lazare, une fois qu'il est sorti du tombeau, il y a Jésus qui dit « laissez-le aller », c'est-à-dire que sa vie ne s'arrête pas à ses liens avec Marthe et Marie, la vie qui le sollicite est plus grande que ces liens à travers lesquels aussi lui il a pris forme, donc il est appelé ailleurs, et on le retrouve dans le repas auquel Jésus participe avec ses sœurs, il est présent à la table eucharistique. Donc aussi la nature, oui, quand on parlait de que les chats éventuellement, etc., sont appelés à nous rejoindre dans un au-delà. Je veux dire, la table eucharistique, elle est un horizon qui se présente à nous, auquel il faut demeurer ouvert. pour ne pas s'arrêter à ce qui fait évidence. Lorsqu'il est dit qu'on est appelé à lever les yeux vers celui qui a été crucifié et que nous allons contribuer à le crucifier, c'est pour nous dire que nous pouvons lever les yeux vers tout ce qui apparaît mort et vers tout ce qui signe notre condamnation et nos insuffisances sans défaillir et sans baisser les yeux. Lorsqu'on est à un enterrement, je veux dire, autre chose, on peut regarder paisiblement le corps de celui, de celle qui est défunte, parce qu'effectivement, nous savons que ça ne s'arrête pas là, malgré l'odeur. Hein. Il est question d'odeur, là. Hein. Il y a quelque chose qui, au-delà des apparences, et continue à faire partie de notre vie et de notre entente de la communion.
Désolée d'interrompre, mais peut-être laisser le quart d'heure qui nous reste pour des questions. On s'est dit que les questions, ça pouvait être à la fois des questions voilà, sur l'intervention, sur le parcours de Philippe, etc., mais aussi des partages d'expériences militantes, par exemple, où vous avez été nourri aussi par la lecture de la Bible. Voilà, donc la parole est à vous. N'hésitez pas.
Si j'aurais fait l'exposé, ça aurait été plus concis. Mais là, la conversation,
S'il vous plaît, pourriez-vous nous préciser, nous donner des précisions sur ce que vous appelez le kairos ? Je n'ai pas tout à fait saisi ce que c'était.
Tu peux répondre, ça ? Tu peux répondre,
la question est pour toi. Non, mais ici, oui, quelqu'un peut-il dire aussi, pour participer à la conversation, qu'est-ce que vous entendez par kairos ? Hein, c'est...
La définition, enfin, j'y connais pas grand chose. La définition du kairos s'oppose à chronos. Chronos, c'est le temps qui s'écoule, le kairos, c'est le moment. Je crois que je ne connais pas trop la Bible en grec, mais Jésus parle plusieurs fois de kairos pour désigner c'est voici le moment. Le royaume est là, voici, c'est maintenant. Et je raconte une petite anecdote sur ma première année de mariage avec Maïlis, où un prêtre qu'on avait vu nous proposait vraiment de le vivre comme un moment d'attente, d'attendre ce kairos, d'attendre un appel, d'attendre. Que le Christ nous donne, plutôt que de nous éparpiller justement dans plein de combats ou plein d'engagements associatifs ou pastoraux ou ecclésiens, quoi, de faire silence et d'attendre ce moment où le Christ peut appeler à quelque chose d'un peu plus grand que nos propres vues humaines.
Oui, à tous les moments, au milieu d'une histoire, je veux dire, qui semble constituer un tout, il y a des personnes qui introduisent une autre donnée. Alors, pour moi, ça renvoie par exemple au moment où il y a eu la grande tempête de 2000, là, avec qui a traversé la France, ou autre chose. Dans le village où j'étais, bon, bien sûr, il y a eu un tas de toitures qui se sont effondrées, d'arbres déracinés, autre chose, etc. Mais ce qui a surgi là aussi, comme souvent dans tout ce qu'on entend là où il y a des catastrophes, ce sont des gestes de solidarité. C'est-à-dire qu'au milieu de cette histoire qui semble ne pouvoir laisser place à rien d'autre qu'au désastre, il y a quelque chose qui surgit où des gens se sentent convoqués par des gestes d'entraide vis-à-vis d'un voisin ou que sais-je, etc. Hein? Bon, ça pour moi c'est synonyme de la disponibilité pour sortir d'une histoire qui semble nous convoquer tout entier et de nous laisser aucune marge de manœuvre pour répondre à un besoin et à une attente de quelqu'un d'autre. Le livre « Vous n'aurez pas ma haine » par exemple, pour moi ça paraît aussi quelque chose, quelqu'un qui, pour qui tout à coup, vu le deuil qu'il a connu, devrait se laisser emporter par cette histoire, par ses larmes qui constitueraient comme un mur, hein, comme pour Jésus là, il s'agit il le traverse pour faire état d'un pardon, hein, d'un accès. accès à une autre histoire qui ne s'arrête pas là.
Je peux parler fort, sinon. Question terre à terre concernant votre grève de la faim. Ça a été. Okay. Merci. Question terre à terre concernant votre grève de la faim, qui a été longue et très médiatisée. Je me demandais comment est-ce que vous avez senti que c'était le moment de vous arrêter. Et avec un an de recul maintenant, quel regard vous portez sur cet épisode de votre engagement à Calais ?
Oui, dès le départ, je savais quand je m'arrêtais, puisque la trêve hivernale commençait le 1er novembre, et puis donc je savais que si le 2-3 novembre, je veux dire, les expulsions continuaient à se poursuivre, c'était inutile de poursuivre. Surtout que cette grève de la faim, en plus, est arrivée moi, au milieu d'un calendrier où je devais chercher deux lieux d'hébergement et les mettre en route. Donc aussi, j'avais, je veux dire, mon histoire ne s'arrêtait pas à cette grève de la faim. Ça a été plus difficile pour Anaïs et Ludovic, qui étaient avec moi, de s'arrêter, et parce que effectivement, il y a bien un moment où on peut se laisser emporter par une logique de jusqu'au boutiste, hein, voilà, qui dont il s'agit de sortir à partir du moment où elle risque de devenir mortifère. Voilà, moi je m'y suis engagé en sachant où j'allais. C'était quelque chose qui, dans le format réduit qui a été celui adopté par moi, en même temps a repermis de dresser une table de la conversation. C'est-à-dire que là où même des journalistes qui nous sont favorables à Calais disent nos rédactions, voilà, si on n'a rien de nouveau à leur apporter, sont plus preneuses d'articles ou autre chose, là il y a quelque chose qui faisait événement et qui fait que ce qui se passe à Calais, ce qui est fait, ce que la parole, toutes les paroles juridiques, administratives, politiques, etc., font au corps des exilés, est revenu sur la table, et il y a eu quand même une amorce de dialogue. Et puis, surtout pour moi, le fruit le plus positif, c'est que la dynamique interassociative s'en est trouvée renforcée. Hein, donc là aussi, ça participe de la parole. Jésus, à travers sa passion, il y a un moment où, ayant quitté la table où s'est célébré l'Eucharistie, lui-même devient cet autel ou cette autre table où, au cours de ses procès, il y a ses prises de parole, etc., où peut se rendre, s'ouvrir à nouveau quelque chose d'une parole qui soit pas un faux semblant, mais quelque chose où, humainement, on essaie de retrouver un horizon commun et à partir d'un commencement commun. Et pour moi, ce commencement, c'est celui de l'attention au corps.
Merci beaucoup pour cette conversation. Moi, juste, je vais revenir sur un moment où vous avez parlé de la malédiction du figuier et sa portée politique. Et je n'ai pas trop compris, du coup, quelle était sa portée politique, si vous voulez y revenir, David.
Oui, alors, le contexte, je dis, ou prudentiel, c'est jamais le moment. Donc, par exemple, le Secours catholique, il y a un délégué du Secours catholique. Parmi nous, je veux dire, on est pris dans des budgets prévisionnels. Bon, je veux dire, mais après, c'est coincé. Pendant un an, on est coincé. Je veux dire. Et surtout, pour moi, ça témoigne du fait qu'on est, on reste dans une logique qui est une logique rationnelle, du bon sens, etc. Et on ne fait pas, on oublie de faire droit à ce tiers qui est toujours avec nous. J'aime bien dans l'Épître aux Romains la phrase qui dit que Dieu aime ceux qu'il aime, ceux qui aiment la vie. Hein, bon, pourquoi ? Donc l'exemple banal que je prends, c'est celui où vous plantez une fleur au bon endroit, vous l'arrosez comme il faut, etc. Ben, la vie est au rendez-vous. Au niveau de la ZAD des Landes, il y a eu un gros bouquin qui est paru sur la ZAD. Ils font état du fait que, en prévision d'un assaut de la gendarmerie ou autre chose, etc., ils pouvaient mener des discussions à perte de vue, des nuits durant, entre gens de cultures différentes, cultures syndicales, paysans du coin, libertaires, anarchistes, tout ce qu'on veut, etc. Et sans aboutir à rien. Mais le jour où il y avait l'intervention de la gendarmerie, ça se passait bien. Pourquoi ? Parce que la vie était au rendez-vous. Et il faut toujours compter sur cette vie. Et pour moi, ça renvoie au fait qu'on ne peut pas taper à la fois sur l'argent. Voilà, il faut choisir entre Dieu et l'argent. L'argent, qu'est-ce que c'est ? C'est ce qu'on maîtrise, les appuis que l'on se donne. Or, je veux dire, la foi, c'est sortir de ses appuis. La résurrection, c'est ça. On n'a plus d'appui en nous, mais on sait qu'il y a une main qui va nous saisir. Donc, on est prêt à marcher sur la mer. Or, nos institutions, au nom de ces prudences, c'est pas la saison, c'est pas le moment, etc.
Donc, juste pour essayer de répondre à ta question sur l'épisode du figuier, en complément, parce qu'il y en a plus. Il y a dans l'art qui, au moment, j'ai dit ce n'était pas la saison des figues. Donc, ça renvoie un petit peu à la question sur le kairos qui était posée tout à l'heure. En tout cas, la façon dont tu comprends, Philippe, je crois, c'est de dire finalement, la saison, justement, c'est le chronos, c'est le temps qui s'écoule, c'est le rythme biologique, c'est le rythme de la vie, avec son rythme propre. Et le kairos, ce serait ce temps politique, justement, qui vient briser d'une façon quelque part surnaturelle, en fait, ce temps biologique et qui nous appelle, là, à agir. Et donc là, si Jésus maudit le figuier, ce serait parce qu'il a l'outrecuidance d'avoir des saisons, et des saisons où il n'y a pas de figues, ce n'est pas la saison des figues. Et donc, quelque part, c'est une interprétation provocante, mais qui me parle, dans la mesure où il nous rappelle, bah oui, il y a toujours un temps biologique, il y a un temps pour faire les choses, et il est bon qu'il ait un temps comme ça, c'est aussi le temps de la vie. Mais il y a des moments où il y a un appel qui est absolu. Et c'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure sur le kairos, ce temps politique qui est toujours une brèche, quand même, quelque part. Et il y a toujours quelque chose de violent, voire de. C'est scandaleux, quelque part, cette façon de maudire le figuier, si en tout cas on prend cette interprétation, le pauvre figuier. Suit sa vie de figuier. Mais voilà, je crois que c'est pour faire un petit peu. Il y a toujours quelque chose dans ce temps politique, dans la grève de la faim aussi. On interrompt la vie. Enfin, je veux dire, dans les évangiles, il y a beaucoup de moments où le fait de manger, ça renvoie à la vie. Quand Jésus demande donnez-moi à manger la faim de Jean, petits enfants, est-ce que vous avez quelque chose à manger ? Il mange du poisson et puis il montre qu'il n'est pas un fantôme. Quand la fille de Jaïr est ressuscitée, Jésus dit qu'on lui donne à manger. Voilà, manger, c'est la vie. Puis manger avec les publicains, manger avec les prostituées, etc. Donc s'arrêter de manger, c'est aussi peut-être politique. On sait quelque chose de quelque part qui va contre cette vie biologique, mais pour une autre vie. Voilà, c'est ce qu'on a essayé peut-être de voilà, on tourne un petit peu autour de ça. Je ne sais pas si c'est plus clair.
Il y a un autre contexte, c'est celui du Cantique des Cantiques. Où il y a le bien-aimé qui vient travailler à la porte de sa chérie, et sa chérie hésite une seconde en disant « Zut, je me suis lavé les pieds, j'ai mis mes bigoudis, voilà. » Et le temps qu'elle se relève et qu'elle aille ouvrir, le bien-aimé a pris la poudre d'escampette. Voilà. Donc ça vient nous surprendre. L'appel à veiller, c'est ça aussi. On ne sait pas l'heure. Bon. Alors, au milieu de nos combats, on peut penser que nos combats aussi, on est à l'heure, mais au milieu de nos combats aussi, quelle va être la bonne heure pour être au rendez-vous de cette autre histoire qui nous convoque, hein, bon.
Merci beaucoup, Philippe, pour ce que tu as partagé. J'avais deux petites questions. La première, je ne sais pas si je cache. La première, c'est comment, face à cette grève de la faim que tu as faite, comment ont réagi les personnes exilées qui étaient avec toi ? Est-ce que c'était plutôt des réactions en disant merci beaucoup de faire cet acte qui est une certaine partie pour nous ? Ou alors au contraire, je sais pas, quelle a été leur réaction ? Et puis, je crois que tu. Ce temps à Calais prend fin pour partir après la nuit, et je me demandais comment tu vivais le fait de partir de ce lieu qui est très fort et qui a marqué ton engagement. Enfin, voilà, le fait de repartir dans une ville, je sais pas si c'est lambda, mais qui n'est pas Calais.
Mmh. Oui, les personnes exilées, bon voilà, il y a des amis, qui ceux qui étaient chez moi, etc. Bon, et puis d'autres sont venus, bon voilà, pour vous saluer. J'étais pas seul, j'en étais trois. Hein. Bon voilà, alors je sais pas, parce que c'est difficile d'exprimer les émotions, etc. Je sais pas s'ils ont été... c'était pas, cette grève de la faim n'était pas d'abord adressée... leur était pas d'abord adressé, je sais pas comment ils, voilà, vraiment je sais pas comment ils ont pu intégrer ça, à travers quelle grammaire, à travers quel décodage, on sait rien. Bon, voilà. Et pour ce qui est de quitter Calais, pour moi c'est plus de prendre de la distance par rapport à Calais, auquel je renonce pas. Mais rester à Calais aujourd'hui, où il me semble qu'il y a une routine à nouveau qui s'installe, je me laisse la possibilité de faire des allers-retours avec en tête, je veux dire, la possibilité d'être plus efficace et de réintroduire de l'événement. Parce qu'il s'agit toujours de fournir oui, un extérieur qui apporte de l'air frais, qui redonne du large. Bon, et je pense que ce sera plus aisé en étant à l'extérieur. Ou à Calais, je rencontre des limites qui sont les limites des institutions. Par exemple, au niveau du diocèse, il y a encore deux lieux que j'ambitionnais de pouvoir utiliser. Et c'est, voilà. Alors je pense que ça pourra se faire si ce n'est pas moi qui suis l'acteur de cette avancée-là. Aussi, il y a des fois où c'est nous-mêmes qui représentons des limites à des évolutions, à travers ce qu'on est ou autre chose. Il faut en prendre acte. Et puis voilà, se laisser un peu.
On va peut-être prendre une dernière question.
Moi, c'était plutôt une demande d'outils. Déjà, tu as parlé de retrouver de la douceur dans les relations institutionnelles ou avec les gens qui étaient décédés sur place. Et c'est comment, du coup, essayer d'avoir cette douceur quand nous, on est témoins de cette violence étatique et aussi d'harcèlement policier au quotidien. Comment prendre du recul et remettre en place cette douceur sur le terrain avec, au niveau associatif. Et l'autre, c'est aussi comment garder de l'espoir dans notre engagement, comme tu le disais, fin du 20e siècle. Avec ce début des années 2000 sur Calais, puis actuellement avec la situation qui s'améliore pas entre guillemets, pareil sur Paris où la situation s'améliore pas et même devient de plus en plus compliquée avec les politiques actuelles, comment garder de l'espoir aussi dans tout ça?
La question des sports, c'est d'être attentif aux histoires qui se proposent. C'est toi qui as insisté au départ sur la présence des morts, comme Lazare peut être présent au repas, ensuite après sa résurrection. Je me dis, pour moi, ça dégage aussi la nécessité, c'est au fil du temps que je trouve à travers le cimetière de Calais, où il y a du commun qui se crée, je veux dire, comment faire fournir à toutes ces individualités qui passent et qui doivent être vraiment pensées comme dans la rue, moi, 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 pour survivre et aller jusqu'au bout de ce qu'ils veulent. Comment bâtir du commun et comment recevoir ce commun pour nous? Cette vocation à l'exil qu'on est appelé à habiter. Athée Descartes dit qu'on ne peut pas bâtir un monde commun sans... volonté de bâtir avec les plus pauvres. Comme je pense parallèlement aussi avec la découverte des exilés et toute cette misère, toutes ces histoires dans lesquelles nous entraînons aussi, la nécessité de garder la mémoire de cette vocation à l'exil qui nous... Voilà, pour bâtir une humanité qui fasse toujours droit à la vie. Alors, cela dit, pour la douceur, il s'agit d'affronter la vraie vie. Je veux dire, dans vivant avec des sans-abri, je veux dire, souvent j'ai été affronté au problème de l'alcool avec des personnes qui deviennent voilà, qui font régner un climat de latent, de rage qui va éclater, etc. Au milieu. Et souvent j'ai été pris par l'envie de provoquer la violence pour que la purger, hein, comme, voilà, donc de rentrer moi-même dans une violence active. Et je me suis toujours référé au fait que, à plusieurs reprises, Dieu nous fait entendre que les combats dans lesquels nous sommes engagés pour le mieux de notre humanité, ce n'est pas d'abord notre combat, c'est le sien. Et donc j'ai toujours parié sur le fait qu'il y aurait l'événement ou l'attitude qui permettrait de désamorcer la violence. Donc, de refaire droit à cette douceur qui nous vient, mais sur laquelle il faut parier, parce qu'il n'y a pas a priori de recette qui nous l'assurerait. Mais c'est là où on vit la foi. Donc il n'y a pas d'algorithme voilà, mais j'ai pas de savoir. Je me retrouve toujours aussi con dans des situations de violence. Et puis parfois, genre, je fais le jeu de la violence, je lui donne corps, et parfois j'évite ça. Mais bon, c'est.
Merci beaucoup.
Merci.
Merci. Merci.